France Culture.
Bonjour le Book Club. J'ai lu Note à John de John Didion. J'avais hésité à l'acheter parce que je me disais qui a envie de lire les notes que quelqu'un prend après ses séances à son psychiatre. Et le paradoxe, c'est que moi à l'époque, je prenais des notes avant et après chaque séance chez mon psy. Donc c'était quand même très drôle. Et en fait, j'ai aimé la franchise, j'ai aimé la sagesse du psychiatre. Un beau livre honnête, généreux, fin, profond. Celui-là, il est vraiment hyper bien.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Note posthume aujourd'hui dans votre book club, note retrouvée dans les affaires de l'autrice américaine Joanne Didion, morte en 2021. Il s'agit de ce qu'elle écrivait entre les séances chez son psychiatre et à propos de ces séances durant une année particulièrement douloureuse et préoccupée par la santé mentale et physique de sa fille adoptive Quintana. On y retrouve la façon particulière d'écrire de l'autrice de l'année de la pensée magique qui dit le faire entièrement pour savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle cherche, ce qu'elle voit et ce que ça veut dire. Les notes utilisent parfois le « tu » comme une adresse à son mari et au final un peu à nous. Traduites par José Camoun pour les éditions Grasset, elles paraissent sous le titre « Note à John ». Tiphaine Samoyo et Antoine Cazé sont avec nous pour évoquer ce livre et les questions que pose forcément sa publication. Comme d'habitude, on finira par chercher de la musique dans les livres. Joanne Didion disait qu'elle la faisait passer avant le sens, rien qu'une histoire de tempo. On est ensemble pendant une heure, bienvenue à tout le monde dans le Book Club. Bonjour Tiphaine Samoyo.
Bonjour Marie.
Vous êtes chercheuse, essayiste, écrivaine. Vous tenez entre autres un feuilleton littéraire pour le journal Le Monde. Et vous avez justement consacré un article à ce livre. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous rejoignez régulièrement autour de la table du Book Club. Et franchement, au nom de toute l'équipe, on voulait vous dire que c'était vraiment très sympa et très généreux. Pour nous et pour les auditrices et pour les auditeurs. Bonjour Antoine Cazé.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'université, spécialiste de la littérature américaine à Paris Cité. Bienvenue, c'est votre première dans le Book Club. Ça se trouve,
c'est
vous reviendrez.
Dans le Book Club, ben...
Soyez le bienvenu.
Merci beaucoup.
On va commencer, avant d'évoquer ce livre particulier, Note à John, donc traduit par José Camoun aux éditions Grasset, par resituer s'il le faut, pour peut-être certains et certaines de nos auditrices et auditeurs, Joanne Didion dans le champ littéraire américain d'abord et puis peut-être mondial ensuite. Que peut-on dire d'elle? Que doit-on savoir avant de parler de Note à John?
Alors, c'est une voix singulière d'abord. Hein. Vous parlez de la resituer dans le paysage littéraire américain. Ça sera difficile de trouver une voix équivalente, je pense. Donc une singularité. Je crois que ce que je dirais ensuite, c'est qu'elle vient de Californie. C'est extrêmement important. On le voit d'ailleurs dans Note à John. Hein. Il y a plusieurs passages où elle parle de la Californie. Elle parle de sa famille, de ses ancêtres, de ce que ça veut dire de vivre en Californie, d'avoir émigré jusqu'en Californie quand on était au temps des pionniers. Donc ça, je crois que c'est important. Ça l'ancre vraiment dans une partie très spécifique des États-Unis, quand même, la Californie. Hein. Et en particulier aussi dans le monde du cinéma, dans lequel elle va jouer un rôle très important comme scénariste. Hein. Elle va, avec son mari, John Gregory Dunn, ils vont beaucoup travailler pour Hollywood, pour le cinéma. Donc ça, ce sont des éléments tout à fait importants. Après, de façon littéraire...
Elle commence à écrire quand et où?
C'est une bonne question. toi, tu le sais, toi?
Oui,
Tiphaine, commence, exactement.
À New York, dans le journal Vogue.
Ah, c'est ça.
Elle gagne une bourse, elle fait des études à l'université de Berkeley, elle est toujours en Californie et elle passe de l'autre côté pour la première fois grâce à cette bourse, ce prix qu'elle gagne pour la publication d'un article et où elle vient travailler au journal Vogue et où elle restera plusieurs années.
Oui, et on dit que cette première pratique de l'écriture à Vogue, et notamment sa relation avec les éditoristes qui travaillent ses articles et lui font écrire vite de manière efficace, c'est un premier enseignement du fameux tempo de Joanne Didion.
Oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir, c'est important le balancier entre la Californie et New York, parce que c'est aussi un sujet qui revient à nombreuses reprises dans ce livre-là, dont on va parler, et dans d'autres. Et c'est assez typique, finalement, des écrivains américains tiraillés entre les deux côtes.
Oui.
Typiquement, on a la côte Est avec cet aspect européen, intellectuel, très proche de ce qu'on connaît, oui, chez nous, en Europe, le monde littéraire, la scène littéraire très animée, les grands journaux, etc. Et puis la Californie, c'est une terre beaucoup plus expérimentale, on pourrait dire. Alors on le voit dans certains mouvements américains, certains courants littéraires américains comme la poésie, poésie de la côte ouest, poésie de la côte est, dans les années 60 par exemple, on a des choses parallèles mais qui se ressemblent un peu mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est intéressant de voir une écrivaine comme Didion passer de l'un à l'autre, se demander où est sa place exactement, est-ce qu'elle est plutôt de l'est ou de l'ouest. C'est un thème assez récurrent, je pense, dans l'ensemble de la culture américaine aussi.
Nous, on la découvre pour beaucoup en France au moment de la parution de l'année de la pensée magique. Mm-hmm. Aux États-Unis, quelle est la réception de ces textes? Antoine Cazé, Tiffaine Samoyo.
Elle est extrêmement connue aux États-Unis avant la publication de l'année de la pensée magique. C'est qu'elle se fait d'abord connaître par le journalisme, mais il faut bien comprendre que aux États-Unis, il n'y a pas du tout cette distinction que l'on peut faire en France ou en Europe en général entre le journalisme et puis l'écriture sacralisée. On peut tout à fait être connu comme grand écrivaine ou grand écrivain en faisant des articles dans les journaux, et c'est ce qui lui arrive. Et parce qu'elle publie dans Vogue, mais aussi après dans New Yorker, dans d'autres journaux, de grandes enquêtes, hein, des articles très personnels, mais qui reposent aussi sur des enquêtes de terrain, qui peuvent être tout aussi bien des articles sur des faits divers, sur des événements politiques, ou sur des lieux, sur des espaces, sur des cultures, sur des sous-cultures. C'est très très varié, hein, ces sujets, mais ça part du terrain et c'est investi par une personnalité, un jeu, qui s'implique dans le texte. C'est une écriture, un journalisme subjectif, hein, qu'on connaît, hein, sous le nom de New Journalism ou Nouveau Journalisme.
Et elle est une pionnière, pour reprendre ce mot-là, qui compte dans son histoire ?
Non, elle n'est pas particulièrement pionnière. Elle s'inscrit dans une tendance qui est très, très, très importante et qui permet de faire reconnaître énormément d'écrivains. C'est-à-dire des écrivains comme Norman Mailer, Tom Wolfe, même Truman Capote, à sa manière, se sont fait connaître de cette façon-là. Et donc elle s'inscrit tout à fait dans ce paysage-là. Et lorsqu'elle publie des romans, elle publie des romans dans les années 60, en même temps qu'elle publie tous ces grands articles, elle est tout aussi célèbre pour les uns que pour les autres. C'est une situation qu'il faut essayer de comprendre, parce que c'est pas du tout une situation...
Il n'y a pas de dichotomie entre l'ère journalistique et
absolument
l'ère qui serait purement
absolument
littéraire.
Pas. Et d'ailleurs, tous ces articles de journaux sont repris en recueil, certains qui concernent la politique, d'autres qui concernent la Californie, justement... Et ces articles sont repris en recueil et sont vendus très vite comme des best-sellers, alors que les personnes ont déjà lu la plupart du temps les articles dans les magazines. Donc ça, c'est... Donc elle est extrêmement connue, et ça nous arrive pas en France ou en Europe à ce moment-là.
Ça veut dire aussi que c'est une femme qui, parce que c'est pareil, elle est rattachée ici en France à une écriture de choses qui sont très proches de l'intime, qui sont très proches de la famille, de l'intériorité. C'est une femme qui est hyper tournée vers le monde, que ce soit les arts, la politique, le monde comme il va, dans son écriture à la base.
Oui, tout à fait. Mais pour rebondir sur ce que disait Tiffaine, ce nouveau journalisme, hein, comme on l'appelle finalement, elle n'en est pas pionnière effectivement, mais elle a vraiment poussé, je dirais, dans ses retranchements ou ses conclusions ultimes. C'est-à-dire que elle a un style, elle s'est forgé un style, une marque de fabrique qui mélange ce que vous venez de dire très exactement, c'est-à-dire la figure publique et la figure intime. Et du coup, elle joue sur un brouillage constant dans ses textes entre ce qui pourrait être de l'ordre du reportage et ce qui est de l'ordre de la construction de la fiction. Et ça, on le retrouve aussi en particulier dans Nota Jones, je trouve, on en parlera tout à l'heure, mais et ça, c'est vraiment, à mon avis, ce qui la distingue, ce qui fait qu'elle est remarquable dans ce courant qui comporte effectivement beaucoup de figures que tu as déjà citées. Voilà, vous avez raison de souligner cette dichotomie, mais en fait, de cette dichotomie, elle fait une espèce de fusion, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment avec Didion si on est... dans quelque chose de privé, voire de réinventé, de réécrit, ou au contraire, si on est dans des faits. Et d'ailleurs, elle utilise les faits sans arrêt, mais la façon dont elle utilise les faits, dans l'année de la pensée magique, par exemple, hein, elle cite, elle colle même, il y a un côté collage, elle colle des extraits de différentes de coupures de presse, des choses, voilà. Mais elle utilise ça d'une façon qui est complètement personnelle.
Mais justement, est-ce que c'est pas tant un brouillage qu'un tressage, Antoine Cazé?
On pourrait le dire comme ça, oui. Mais brouillage est peut-être trop négatif.
Oui, c'est ça, il y aurait l'idée qu'il y aurait une sorte de qu'on flouerait le lecteur sur la marchandise.
Oui, non, non.
Or là, il y a plutôt une façon de les entremêler par l'écriture.
Il y a même une grande honnêteté dans cette attitude. C'est-à-dire, il y a une espèce de... confrontée à des faits, elle ne les accepte pas de façon brute. Elle voit ce qu'elle pourrait en faire, mais elle ne trahit jamais les faits non plus. Donc, je pense qu'elle est vraiment le tressage me paraît une très bonne caractérisation.
Il y a un très fort voilà d'où je parle, quoi. Voilà Absolument. D'où je parle et voilà d'où j'écris qui est Absolument. Permanent dans sa manière d'être là. Okay. Puisque vous évoquez ce texte, L'année de la pensée magique, et qui est donc, je le disais, celui par lequel elle arrive très massivement en France par la traduction, est-ce que vous voulez en dire un mot, Antoine Cazé ?
Alors, d'abord, on peut dire que la traduction de Pierre de Marty est absolument remarquable en français. Ce serait une première chose. Et oui, alors, c'est intéressant de lire à la fois Not a John et L'année de la pensée magique, puisque L'année de la pensée magique, en fait, chronologiquement, a été publié avant, mais suit
ce qui se passe dans Not a John.
Ce qui se passe dans Not a John, oui, c'est ça. Les conséquences assez tragiques. C'est un livre qui fait pleurer. Enfin, moi, ça m'a fait pleurer en lisant.
Vous parlez
ça.
De Not a John
de L'année de la pensée magique.
L'année de la pensée magique. Alors, de quoi s'agit-il ?
Donc, il s'agit du mois de décembre 2003, au retour d'un dîner,
avant
même de dîner.
Ils prennent l'apéro,
John Dillon et son mari John Gregory Dunn. Ils prennent l'apéro, elle fait un feu, il s'assoit à table et au moment de passer à table, il meurt sous ses yeux. Il s'effondre, crise cardiaque, voilà. Et le livre raconte toute la suite, expliquant qu'elle s'est mise, elle, pour essayer de... je n'arrive pas à trouver de mot en français, cope with... pour essayer de reprendre pied, elle s'est mise à avoir une pensée magique. Elle réalise après coup qu'elle a une pensée magique. Et la pensée magique, c'est, en fait, je veux qu'il revienne. Donc, le livre raconte comment est-ce qu'on fait pour faire revenir un mort. On ne peut pas le faire, évidemment, elle s'en rend très vite compte. Et ceci est tressé au fait que sa fille, Quintana, fille adoptive, qui a des graves problèmes d'alcool, d'addiction, etc., et ce qu'on apprend en détail dans Not a John, elle-même, juste après la mort de son père adoptif, du mari de John Dillon, elle-même tombe gravement malade, plusieurs fois, et hospitalisée de façon répétée, et elle va finir par mourir très, très vite également. Donc c'est un livre complètement tragique. C'est une double tragédie qui arrive en même temps sur cette femme qui voit sa vie chamboulée, et elle raconte ce chamboulement.
Et il y a quelque chose qui va en effet répondre d'une certaine manière, et de manière étrange dans la chronologie, mais c'est pas grave, ça lui ressemble presque au livre que nous allons évoquer aujourd'hui. Peut-être parce qu'il procède d'une forme de note, c'est-à-dire qu'elle raconte au début de l'année de la pensée magique qu'elle commence à écrire 9 mois et 5 jours après le soir. Oui. Et il y a quelque chose de la prise de note du début de l'écriture qui a à voir avec, prendre note du réel, Tiphaine Samoyeau, d'une certaine manière.
Oui, absolument. Donc, ce qui est assez fascinant dans ce livre, c'est qu'il repose sur une expérience que chacune ou chacun d'entre nous avons pu faire au moment de la, enfin, en perdant une personne chère. C'est que l'année qui suit est entièrement occupée à revivre l'année précédente où cette personne était encore en vie. Donc ça, je pense que c'est une expérience unanimement partagée, une expérience assez universelle, on va dire. Et qu'elle va essayer de retourner magiquement vers l'avant, c'est-à-dire que cette année passée va être l'année à venir. Et il y a quand même l'idée que l'écriture autorise cette magie, a ce pouvoir magique de faire revenir. Donc au départ, ce sont des petits gestes tout à fait infimes, quotidiens, mettre ses chaussures dans l'entrée au cas où il va revenir, des petites choses.
S'il revient, dit-elle, il aura donc besoin de chaussures.
Voilà, s'il revient, il aura besoin de chaussures. Et puis progressivement, se rendant compte que ces petits gestes quotidiens ne fonctionnent pas réellement, eh bien elle va passer à quelque chose d'autre qui va être l'écriture. Et l'écriture qui, d'une certaine façon, a ce pouvoir de faire revenir, ne serait-ce que parce que l'écriture fait revenir et inscrit le souvenir. Mais ce que je trouve assez beau dans ce livre, c'est que elle ne se moque pas de cette magie. Elle sait très bien qu'on a besoin de ce genre de signes et qu'on va les chercher à peu près partout où on peut les trouver, avant de pouvoir passer à cette étape qui est aussi une étape du deuil, hein, qui est celle du souvenir, qui est celle où on regarde des photographies, où on arrive à reconstituer un temps qui a son autonomie de temps passé. Tout ce qui construit le présent avec la mort de quelqu'un, eh bien là, se fait de manière complètement bricolée. Et je dirais que l'écriture garde la trace de ce bricolage. Et donc, on a un peu l'impression, en effet, qu'on est sur des notes au jour le jour, même si le texte, ici, est particulièrement travaillé.
Oui, et extrêmement composé.
Oui, extrêmement composé. Mais elle laisse cette fragilité, je dirais, de la note, peut-être pour inviter chacune et chacun à faire pareil. À cause, précisément, je pense, de cette confiance dans un pouvoir de l'écriture, non pas à ressusciter une personne, mais à la faire vivre autrement.
Mais aussi, puisque la forme nous parle du fond, est-ce qu'elle ne laisse pas affleurer l'idée d'une fragilité, y compris reconstruite de l'écriture, pour raconter la fragilité de l'État, le bricolage de l'État, la manière dont, de toute façon, ça compose avec des bribes.
Oui, je crois.
Voilà, il y a aussi quelque chose qui... Elle a confiance, je trouve, dans la manière dont apparaît son écriture, pour aussi nous raconter, Antoine Cazé.
Oui, tout à fait. Et sur ce point, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, il y a aussi un caractère un peu de collage dans ce texte. Elle cite des extraits, des coupures de presse, ou alors des choses beaucoup plus intimes, des lettres, des documents qu'elle retrouve après la mort de son mari. Mais sur les notes, oui, ça commence comme ça, en fait. Mmh. Elle ouvre un document qui s'appelle notes-sur-changement.doc. Mmh. Et là, elle met quelques mots, une des clés de son texte, c'est la question de l'apitoiement. Mmh. Ça commence comme ça. Alors, on voit tout de suite, évidemment, comment ne pas s'apitoyer quand on est dans une situation aussi tragique. Mais, et je voulais dire aussi, oui, dans cette pensée magique, il y a toute la question des souvenirs que tu as évoqués. Et je trouve qu'elle a quelque chose de très beau. Elle appelle ça le vortex. Donc, elle se retrouve en Californie parce qu'elle accompagne sa fille qui est hospitalisée. Et elle a vécu très longtemps en Californie avec son mari, avec sa fille. Et donc, elle s'ingénie à éviter les lieux qui pourraient lui rappeler des choses de sa vie passée. Et en même temps, elle flirte avec sans arrêt. C'est-à-dire que, et souvent, c'est sur la route. Elle arrive à un carrefour. C'est assez symbolique, évidemment. Elle arrive à un carrefour et elle se rend compte que si elle prend à droite ou à gauche, elle va se retrouver dans une rue où elle a fait ceci et cela avec John. Et elle sent là le vortex du souvenir qui la happe. Et comme tu disais, Tiffaine, elle ne refuse pas ça. Elle se sent happée et elle dit « je ne peux pas le refuser ». Elle se laisse porter par ce vortex.
Très frappée, y compris dans Nota John, par le caractère géographique et physique de la mémoire et de la souffrance. On a vraiment l'impression d'une spatialisation de la pensée auquel on pourrait vraiment accéder. Et je trouve qu'elle permet de mettre des mots sur quelque chose qu'on connaît, qui est, oui, on sait là où est la douleur et on y va patiemment, ou alors on y va sciemment, mais il y a vraiment quelque chose qui est matérialiste presque dans sa façon de penser les choses. Vous êtes venu avec un autre livre, Tiffaine Samoyo, avant qu'on se dirige vers Nota John, c'est Le Bleu de la Nuit, mais d'une certaine manière, ça forme une bizarre trilogie, on pourrait presque le dire comme ça.
Oui, aujourd'hui, on peut considérer que c'est une trilogie. On a longtemps pensé que l'année de la pensée magique et le bleu de la nuit formaient un diptyque, puisque l'année de la pensée magique est consacrée à la mort de John, donc son mari, et le bleu de la nuit, plus précisément, à la mort de sa fille Quintana, même si dans les deux, il est question des deux, enfin, ou des trois, parce qu'ils formaient un véritable trio assez fusionnel, ce que révèle aussi le troisième volume, donc, qui vient de sortir, Nota John. La différence avec le bleu de la nuit, c'est que le bleu de la nuit, c'est vraiment un texte qui ouvre le temps, alors que l'année de la pensée magique, c'est très bloqué sur cette année, justement. Cette année qui répète l'année précédente et qui déborde sur l'année suivante, qui est celle de l'écriture. Donc, on a une sorte comme ça d'unité temporelle qui est explosée dans l'espace, hein, comme vous venez de le dire, mais qui est vraiment une unité temporelle. Alors que dans Le Bleu de la Nuit, on a un texte qui est beaucoup plus ouvert, puisque c'est toute la relation et toute l'histoire de la relation avec sa fille qui va être mobilisée. Donc, c'est un texte qui va revenir à l'adoption, à l'enfance de cette petite fille, à son rôle de mère, d'éducatrice, rôle sur lequel d'ailleurs elle n'a aucun apitoiement, aucune tendresse. Hein, elle ne se ménage pas du tout. Pas plus qu'elle ne ménage toutes les mères, on pourrait dire, quand on lit ce texte. C'est un texte qui construit la temporalité du deuil de manière très 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 différente et d'une certaine façon façon.
Mais plus élargi. C'est plus élargi comme temps.
Ouais, oui, c'est un temps beaucoup beaucoup plus ouvert, qui n'est pas comme ça centré. Bon, ce qui fait la force de la pensée magique et peut-être son caractère tragique, c'est précisément son unité de temps sur cette année-là.
Mais peut-être aussi parce que la mort de John, elle est tragiquement brutale, ce qui est beaucoup moins le cas pour Quintana, qui finalement
s'abîme
tellement.
Moi, je crois pas, parce que je pense que la mort d'un enfant, c'est encore plus brutal plus irréductible encore que la mort de son compagnon avec qui elle avait vécu 60 ans. Bon, c'est forcément déjà une tragédie. J'ai dit, mais je pense que la mort de sa fille, c'est une rupture absolument définitive et qui ne peut pas se traiter de la même façon avec justement ce petit bricolage qui est celui que c'est ça qui a fait aussi le succès énorme de ce livre, c'est-à-dire qui est ce petit bricolage que chacune et chacun on fabrique avec son deuil.
C'est presque heureusement moins commun, vous diriez, le bleu de la nuit, ce serait ça?
Oui.
Ouais.
Oui, ça, c'est quelque chose qui est en quelque sorte impensable, puisque dont on dit toujours qu'il est contraire à l'ordre du temps, à l'ordre des choses, à l'ordre des générations, et qui rompt donc du coup brutalement avec tout ce qui s'est construit précédemment, qui est de l'ordre de la transmission, de l'éducation, de l'accompagnement, etc.
Alors que l'année de la pensée magique, d'ailleurs elle le dit, c'est presque un manuel de deuil. Et elle cite dans l'année de la pensée magique un manuel de savoir-vivre qui est écrit quasiment un siècle avant les événements dont elle parle. Mais en même temps, c'est un manuel de deuil pas du tout ironique. Enfin, d'ailleurs, je pense que des lecteurs l'ont peut-être lu comme ça. C'est pas du tout ironique, elle ne s'en moque pas encore une fois. Elle pense que c'est nécessaire d'avoir effectivement recours à tout ce bricolage, comme tu l'as appelé, qui nous caractérise tous et qui rend le livre du coup assez universel.
Et d'ailleurs, dans les 30 langues ou plus dans lesquelles il a été traduit, je pense que ça, c'est un geste absolument partagé par tous ceux qui l'ont lu. Hein. Dès qu'on apprend que quelqu'un a perdu quelqu'un, on lui conseille la lecture de ce livre. Ça, je pense que c'est devenu une sorte de geste commun, par-delà les langues, par-delà les cultures. Et c'est rare, finalement, les livres qui ont cette fonction. Et donc, qui est une fonction de manuel ou d'amulette. Presque,
oui.
De survie.
On va parler d'un livre bien moins simple peut-être à qualifier, et certainement pas manuel de rien du tout. C'est Note à John qui vient donc de paraître chez Grasset dans la traduction de José Camoun. On va le faire juste après, un titre d'Andrew Bird, inspiré des mots de John Didion et de sa pensée de l'atomisation des sociétés et des êtres. Ça s'appelle « Atomized ».
To get a rise, to unseat you. They'll demagnetize your pole. And you know they're gonna try to delete you. So now you're atomized on hold. You know you better stop making your apology. Stop blaming technology, yeah. Blaming technology, oh. May you please, may you stop making your apologies, oh. Blame the technology, yeah. Blame the technology, oh.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À l'exacte aube du XXIe siècle, l'autrice, journaliste, scénariste Joan Didion a 66 ans, sa fille adoptive la trentaine. La seconde est suivie depuis des années pour une maladie dépressive et une dépendance très forte à l'alcool. C'est d'une certaine manière, pour participer à ce soin, que Joan Didion entreprend elle-même une thérapie avec un psychiatre. 46 séances dont elle rend compte dans des notes adressées à son mari. Ces notes ont été retrouvées après sa mort en 2021. Elles sont traduites en français par José Camoun et paraissent aux éditions Grasset sous le titre « Notes à John ». Alors on va maintenant parler de ce texte dont on a dit qu'il pouvait peut-être former une trilogie avec les deux textes que nous avons plus longuement évoqués en introduction, Tiphaine Sannemoyau et Antoine Cazé. Peut-être pour le faire et pour commencer à discuter de ce statut pour le moins discutable, et c'est peut-être ça qui fait l'intérêt de la lecture de ce livre, en tout cas j'espère de cette émission, on va le faire en s'appuyant sur... La voix de Joan Didion, c'est un extrait du documentaire qui s'appelle Le Centre ne tiendra pas, qu'on peut voir sur Netflix. Et elle y lit un extrait d'un essai de 1961 qui s'appelle Slouching Towards Bethlehem.
Some morning when the world seems drained of wonder, some day when I'm only going through the motions.
Quand le monde semblera vidé de toute merveille, un jour où je ferai machinalement ce que je suis censé faire. En ce matin appauvri, il me suffira d'ouvrir mon carnet. Tout sera là. Un récit oublié qui aura pris de la valeur avec le temps. Un billet tout payé pour retourner vers le monde extérieur. Tout revient. Se souvenir de ce que c'est que d'être moi. C'est toujours cela, l'essentiel.
Joan Didion est décédée en 2021 et on retrouve des notes, qui sont ces notes qu'on appelle là aujourd'hui les notes à John. Et ces notes sont confiées à la Bibliothèque publique de New York. Et là, on l'entend dans cet extrait de film où elle parle quand même de son rapport au carnet, du fait qu'elle a cette pratique d'écrire dans des carnets, puis parfois ça dort pendant plusieurs années, puis on réouvre et tout est là. Et enfin, on peut comprendre un peu plus ce qu'on est soi-même. Alors, est-ce que ce qu'on a dans nos mains, qui est devenu un bouquin maintenant, c'est le simple processus qu'on connaît de Joan Didion, ou est-ce que c'est un peu spécifique, Tiphaine Sannemoyau ?
Alors, c'est quand même un petit peu spécifique, parce que, précisément, elle n'a pas... eu la possibilité ou n'a pas fait le choix de les reprendre pour les mettre en forme et pour leur donner la forme qu'elle aurait sans doute souhaité donner au livre, parce que tous ces livres sont écrits à partir de notes, elle prenait toujours des notes, mais ces notes ensuite elle leur
sont travaillées, voilà, retravaillées,
et elle en faisait quelque chose. Et d'ailleurs on trouve d'une certaine façon ces notes là servent de source en partie au Bleu de la Nuit et à l'Allée de la Pensée Magique. Il y a des éléments qui figurent dans ces notes que l'on retrouve sous une autre forme dans ces deux livres, à l'exception d'un événement, et ça je crois que c'est peut-être ce qui peut nous faire discuter, c'est que dans aucun des deux livres où elle parle beaucoup de sa fille, elle ne mentionne publiquement son alcoolisme. Alors que c'est central. Absolument central dans ce livre. Donc là, je dirais que c'est la question, disons, morale que l'on pourrait poser par rapport à la publication.
C'est-à-dire que vous pensez, en disant cela, Tiphaine Sannemoyau, qu'elle aurait consciemment tué la maladie de sa fille dans les autres livres et qu'avec ce livre-là, ça dévoilerait, contre la volonté de Didion, l'alcoolisme.
C'est une hypothèse. Disons qu'en tout cas, c'est très frappant qu'à aucun moment, elle ne donne comme cause des problèmes de santé que sa fille subit entre la mort de John, précisément, et sa mort à elle, c'est-à-dire un an et demi d'errance dans les hôpitaux avec des maladies très très graves. À aucun moment, elle ne donne publiquement, disons, elle ne fait le choix de mentionner ce rapport à l'alcool. Donc c'est un choix évidemment délibéré. Or, c'est tellement présent dans ce livre-là qu'on peut supposer que si elle n'avait pas voulu, si elle avait voulu le dire, elle l'aurait fait avant. Mais indépendamment de ça, je dirais que ce sont des notes qu'elle n'avait pas... Joan Didion, elle est morte très âgée, elle savait qu'elle allait mourir, elle avait mis de l'ordre dans ses papiers. Donc elle savait très bien qu'après sa mort, elle était suffisamment célèbre pour savoir que ses archives seraient publiées. Elle a aussi fait le choix de ne pas détruire ses notes. Et donc je pense que... C'est très ambivalent. Moi, je fais l'hypothèse qu'elle ne pouvait pas publier ses notes parce que c'est quand même le récit assez rare d'un apprentissage par l'analyse qu'elle fait d'une certaine façon à la demande de sa fille. Mmh. On pourra revenir sur ce point. L'apprentissage d'une sorte d'abandon, d'une sorte de lâcher prise, à la fois dans son intimité, dans ses relations humaines les plus proches, et puis dans son rapport au monde, qu'elle tient toujours par l'écriture.
Et le savoir, et donc, elle la maîtrise du savoir.
Elle tient par le savoir, ouais. L'écriture, et finalement aussi, à cause de son anxiété, de son angoisse, sans doute quelque chose qu'elle devait aussi exercer. Une sorte de contrôle qu'elle devait exercer à tous les instants de sa vie. Et donc, ce que racontent ces notes, c'est comment un thérapeute, qui a l'air tout à fait excellent, comment un thérapeute l'aide progressivement à lâcher prise. Et comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle par l'écriture de cette expérience-là ? Je pense que c'était très difficile pour elle, mais c'est la beauté aussi de cette publication.
Est-ce qu'il n'y a pas justement, si on pousse jusqu'au bout ce débat éditorial qui a eu évidemment lieu aux États-Unis et qui a vraiment deux camps, quoi, et un camp bien fourni de gens qui trouvent que c'est vraiment pas du tout une bonne idée d'avoir publié ces notes, si on pousse jusqu'au bout ce que vous dites, Tiffaine Samoyo, et qu'on voit plutôt du beau côté des choses, ce serait le lâcher prise absolue de Joanne Didion, de laisser les notes, de ne pas les organiser, de ne pas se prononcer sur leur destin éditorial.
Ou de laisser le soin à d'autres
de faire le dernier geste,
de
quoi.
De faire le dernier geste, c'est-à-dire c'est aussi, je dirais, une très belle... c'est moi, je fais cette hypothèse, mais en même temps, c'est pas une hypothèse psychologique où je pense que c'est son intention. Mais je pense qu'on peut lire l'abandon, en quelque sorte, de ces
thème,
notes à la postérité.
Thème crucial, par ailleurs, du texte.
Voilà. Oui, absolument. L'abandon de ces notes à la postérité, sachant très bien qu'il y aura une postérité, elle sait très bien le destin des papiers des écrivains, surtout lorsqu'ils sont
mondialement
connus, une telle célébrité. Eh bien, il y a une volonté, une intention, et l'idée qu'elle les livre. Voilà, moi j'aime bien cette idée. Il y a parfois dans les œuvres posthumes des œuvres absolument merveilleuses qui sont précisément, qui tirent leur force de ne pas avoir été justement contrôlées par leur auteur.
Ce que vous dites dans le papier que vous consacrez dans le feuilleton littéraire du Monde et que j'ai trouvé très beau, c'est l'idée de livre voulu, avec l'hypothèse même que... un livre pourrait se vouloir lui-même au-delà de la volonté de l'autrice et de l'auteur, et que ce serait cette force motrice presque de l'écriture qui pousserait les Dota John ou d'autres textes posthumes heureux, parce qu'il y en a des malheureux, mais là ce serait des textes posthumes heureux au sens où ça ferait sens de les lire, qui seraient comme amenés jusqu'à nous par presque la continuation de leur propre moteur, Tiffaine Samoyo.
Oui, c'est une hypothèse que je fais dans cet article, parce que c'est vrai que dans ce débat qui a précédé presque la publication du livre, qui a eu lieu à la fois aux États-Unis mais aussi en France, faut-il publier les posthumes ? Bon, c'est un peu un marronnier, hein, ce débat, parce que on le dit constamment, et puis en fait on ne cesse de publier. Alors il y a évidemment des intérêts commerciaux, éditoriaux derrière, hein, c'est une autrice qui vend beaucoup. Bon, mais au-delà de ça, bon, c'est un livre absolument magnifique, donc il faut quand même le dire. Il faut bien qu'on mette de côté ce débat comme un faux débat.
En tout cas, moi, je sais que tout à l'heure, je le disais en cellule de montage à Léa, avec qui j'ai préparé l'émission, une fois qu'il est là, moi, je le lis comme il est, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai dans les mains, c'est vrai que je le lis comme il est, je le lis pour ce qu'il est, je le lis comme il m'est arrivé.
Je comparais avec un texte qui est aussi pas du tout concerté, dont on pouvait se dire c'est un texte qui n'a pas été du tout envisagé par son auteur comme celui-là, et qui a un peu la même fonction aujourd'hui que l'année de la pensée magique, en tout cas en France. C'est le journal de deuil de Roland Barthes, donc qui est un livre qui n'a jamais été pensé par lui comme tel, qui est vraiment le rassemblement de notes manuscrites qui étaient sur des petites fiches et qui prenait place dans son fichier, qui n'a jamais vraiment du tout été pensé comme un livre, et qui aujourd'hui a une telle évidence qu'il sert lui aussi de manuel de survie aux personnes qui viennent de perdre quelqu'un. Donc voilà, il y a bien une évidence de certains textes posthumes qui empêchent de se poser la question. Ces textes ayant... Dans le cas de John Didion, c'est encore plus... parce qu'on peut dire que dans le cas de Journal de Barthes, étant donné que Barthes est mort brutalement, jeune, sans avoir mis de l'ordre dans ses papiers, il aurait peut-être fini par détruire ses fiches. On pourrait dire pareil de Pétrole, de Pasolini ou d'autres textes posthumes qui ont été publiés après la mort brutale de leurs auteurs. Dans le cas de John Didion, encore une fois, c'est pas du tout une mort brutale. Elle pouvait pas le publier et en même temps, elle le laissait pour
d'ailleurs, publication. D'ailleurs, très intéressant, il y a un passage où à un moment donné, c'est le psychiatre lui-même qui dit « C'est un truc éprouvé, remettre votre bureau ou votre maison d'équerre rétablit bel et bien l'ordre dans votre mémoire. L'effet physiologique est mesurable. » On a écrit là-dessus, vous savez. Moi-même, j'ai fait le ménage dans mes dossiers. J'étais à court de place. Je pouvais plus me permettre d'archiver 50 ans de feuilles d'impôt. C'est chronophage, mais c'est sacrément utile. Je trouvais ça hyper joli que cette prise de parole du psychiatre figure dans le livre. Est-ce que vous voulez dire un mot rapide sur le statut du texte ou est-ce qu'on et qu'on en écoute un extrait ?
Moi, je peux dire quelques mots, en effet. Et je vais faire un peu le prof d'université, mais c'est Umberto Eco qui parle de l'intention de l'auteur, l'intention du lecteur, l'intention de l'œuvre. Donc l'intention de l'œuvre, indépendamment de celle de l'auteur, sur laquelle on a très peu de prise, finalement, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle a voulu faire en laissant ses notes là. Elle existe bel et bien, et je suis vraiment volontiers Tiffaine sur l'idée du texte voulu. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, ce qui m'a frappé, je trouve aussi que c'est un livre absolument magnifique, unique, extraordinaire. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un protocole quand même dans ce livre qui est très pensé.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est des notes, certes, c'est des notes, mais enfin, c'est des notes un peu spéciales. Il faut dire pour les auditeurs que, par exemple, tous les propos de l'analyste, du psychiatre Roger McKinnon, qui d'ailleurs était une sommité dans son métier, un freudien de la vieille école, et qui est de fait, qui ressort comme le deuxième personnage extraordinaire de ce livre, tout ce qu'il dit, tous ses propos sont rapportés entre guillemets, et avec une précision incroyable. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe? Elle avait un magnétophone pendant les séances, et comment elle a fait exactement? Et à côté de ça, quand c'est elle qui parle, c'est plutôt au style indirect libre, donc c'est des propos qui sont pas verbatim, d'une certaine façon. Et en plus, le livre, il est adressé à une troisième personne, c'est John. Donc c'est pas seulement des notes d'une analyse en duo, hein. C'est, là, il y a au moins cinq personnes.
Il y a presque une forme, en tout cas.
Il y a une forme, il y a une intention de forme, on pourrait dire, puisqu'on parlait d'intention. Hein. Il y a cinq personnes, puisque la fille, Quintana, suit elle-même son analyse avec son propre analyste,
Dr Cass,
voilà, qui parle avec le docteur McKinnon, John Didion avec son analyste, et le mari, qui d'ailleurs apparaît dans une séance, sans parler même de la psychologue qui, plus antérieurement,
en 1955, transition toute trouvée vers cet extrait de Nota John dans la traduction de José Camoun. C'est donc une séance, on est le 8 mars 2000, et on va évoquer là aussi une séance d'enfance, d'adolescence, en tout cas beaucoup plus jeune, en 1955.
Mars 2000. Dans certains types de familles américaines, on n'invite pas les enfants à exprimer. C'était le cas de la mienne, et de la vôtre aussi. Vous avez du mal à parler aux gens, en tête à tête. Votre éducation ne vous y a pas préparé. Je me suis mise à pleurer. Parmi les gens qui ont reçu cette éducation, il y en a qui sont tellement sensibles qu'ils ne peuvent pas parler aux autres sans pleurer. Comme vous pouvez le voir, j'ai dit. Après une pause, je lui ai demandé s'il pensait que je devrais aborder ces sujets avec Quintana. En tout cas, je pense que vous devriez lui parler de vos difficultés. Je ne voudrais surtout pas qu'elle pense qu'elle est une source de tracas pour moi, j'ai prévenu. Non, bien sûr que non. Je veux dire, lui parler des difficultés que vous avez à parler aux gens. Ça n'a rien à voir avec elle, mais ça peut lui ouvrir des perspectives pour comprendre certaines choses avec elle et vous. Elle a sans doute très peur que vous souffriez de solitude. Et à juste titre. Vous êtes manifestement très proche de votre mari. Mais s'il lui arrivait quelque chose, qu'est-ce que vous deviendriez ? J'ai dit qu'elle semblait s'en inquiéter en effet. Elle avait formulé, à ma surprise. J'aurais plutôt pensé qu'elle s'inquiétait de ce que je deviendrais, toi, s'il m'arrivait quelque chose. Eh bien, parlez-lui-en. Il est temps d'aborder ces questions. J'imagine à quel point il a dû vous être difficile de venir ici et de vous mettre à parler. Tout comme il vous était difficile de parler à cette femme, cette psychologue à Berkeley, en 1955. Une heure entière, en tête à tête, sans ordre du jour fixé à l'avance. Ça vous force à laisser émerger ce que vous avez en tête. Vous n'y étiez pas prête en 1955. Je crois que vous l'êtes aujourd'hui.
Des séances, l'une des notes à John signée Joan Didion, 8 mars 2000, où elle vient avec une sorte de tapuscrit de cette ancienne séance de 1955. Je me suis trahie tout à l'heure en disant enfance et adolescence, mais pas du tout, elle a 21 ans. Mais c'est parce qu'il y a quasiment quelque chose d'enfantin dans la manière dont elle rapporte cette première tentative de thérapie en 55, pour faire entendre plusieurs choses. Déjà la forme que prennent ces notes à John, et puis vous l'avez dit un petit peu déjà, vous avez commencé à parler de la théâtralité. On est vraiment dans une forme, oui, de théâtre. Alors, que suppose la thérapie, c'est pas tout à fait une analyse, parce que quand même, il parle beaucoup, ce psychiatre. Il dit même qu'il se laisse des libertés d'aller vers plutôt des comportementalistes. Vous allez faire des devoirs à la maison. Il propose de passer des coups de fil à l'autre thérapeute. Enfin, on n'est pas chez des lacaniens silencieux et rigoureux. Mais il y a quand même l'idée, évidemment, du soin et de la parole. Et peut-être c'est là-dessus que je voudrais vous interroger l'un et l'autre. C'est que moi, ça m'a frappé. La question de l'alcoolisme, la maladie, la dépression de Quintana, l'angoisse de Joan Didion, très présente. Mais la difficulté mise à jour de Joan Didion d'être en lien avec les autres, avec l'autre, avec le groupe, avec l'extérieur, je trouve qu'elle explose dans ce livre-là.
Elle explose tout à fait. Alors tout à l'heure, Tiffaine, tu parlais du contrôle, hein, et vraiment ça a à voir avec ça. Elle découvre en fait, c'est réactivé par le travail.
Elle peut le dire.
Elle peut le dire, oui, c'est ça, c'est réactivé par le travail qu'elle est en train de faire, à quel point le contrôle dans sa vie est un maître mot, c'est le cas de le dire. Et elle fait l'archéologie de ce contrôle, oui. Et dans l'extrait qui a été lu, on a entendu la difficulté qu'elle a à prendre la parole, à parler. Et elle comprend, elle peut verbaliser le fait que tout ça vient de son histoire familiale, éventuellement de secrets de famille, du rapport avec sa mère, avec son père. Donc on est dans une configuration finalement assez classique, où effectivement la thérapie sert à travailler sur l'ensemble de l'archéologie familiale pour comprendre comment on en arrive à ce point de souffrance, à essayer de dénouer des nœuds de souffrance. Et c'est vrai que là, on voit vraiment la thérapie par la parole fonctionner, enfin être interrogée, par les limites que s'imposait l'analysante, j'emploie quand même ce terme, même si vous avez raison, c'est pas tout à fait une analyse au sens classique, et comment elle arrive à dénouer sa parole progressivement grâce à ce psychiatre qui, encore une fois, est assez remarquable. Hein.
Alors qu'elle paraît parfois être prise d'un vertige absolu en disant « ça m'est tout à fait impossible, je ne vais pas pouvoir y aller, je ne vais pas pouvoir le dire, aller dans cet endroit d'émotion, je ne vais pas pouvoir y aller », alors qu'on connaît Joan Didion comme étant précisément capable d'aller là où ça brûle, capable d'aller là où c'est le plus douloureux. Et là, on la sent, alors elle la chemine, mais on sent la très grande difficulté au départ.
Il y a une séance qui m'a frappé, c'est vers la fin, où elle arrive et elle est dans une humeur très positive. Elle dit avant ça, elle est très joyeuse parce qu'il s'est passé des événements plutôt d'amélioration avec Quintana. Et elle arrive et elle dit « j'arrive, je m'assois et je pleure ». Et elle ne peut pas parler. Et donc, évidemment, le thérapeute lui dit « pourquoi pleurez-vous ? » Et à partir de cette non-parole, progressivement, elle ravale son sanglot et puis elle finit par comprendre pourquoi elle pleure. Peut-être pas fini par comprendre, mais elle travaille sur la question.
Vous le disiez tout à l'heure, Tiffaine Samoyo, il y a quelque chose de très central, c'est l'alcoolisme de Quintana, cette souffrance psychique et la dépendance. La question d'ailleurs de l'indépendance, la prise d'indépendance, la dépendance du produit, l'abandon est très très central dans notre à John. Moi, j'ai découvert quelque chose que je connais pas du tout, qui est tout le système des alcooliques anonymes aux États-Unis, le fonctionnement, la rhétorique, la ligne quasiment. Et vous disiez que par ailleurs, c'était totalement passé sous silence dans les autres textes. Là, c'est central.
Oui, c'est absolument central. Alors, on évoquait le comportementalisme. Il faut peut-être rappeler aussi pour les auditrices et les auditeurs que la psychanalyse aux États-Unis, c'est pas du tout comme en France non plus. C'est-à-dire que il n'y a pas de d'analyse. Enfin, c'est assez rare d'analyse freudienne ou a fortiori lacanienne qui est seulement de la talking cure. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interventionnisme de la part du thérapeute. et également une inscription sociale, si vous voulez, de la thérapie. Et c'est ça qui est peut-être le plus surprenant, parce que l'espace tel qu'on le connaît, l'espace thérapeutique, l'espace de la parole, c'est censé être un espace désocialisé, précisément complètement à part, où toute la parole est justement rendue possible parce que les mots qui sont prononcés là ne sont pas exactement identiques ou considérés comme ayant une incidence directe sur le réel. Alors que là, et c'est augmenté évidemment par le dispositif des notes, on a une sorte d'espace qui est aussi un espace social. Mmh. Et c'est évidemment augmenté par
Jodie Dion
elle-même.
On voit le dehors.
Constamment. Ouais. Par le fait qu'elle déplace cette parole dans l'écriture et qu'elle l'adresse à son mari comme si, lorsque quelqu'un sort de son analyse, il allait immédiatement raconter tout ce qu'il avait dit à son compagnon. Enfin, je veux dire, ce serait une raison de divorce immédiat. Enfin, je veux dire, mais c'est le miracle un peu de la littérature, c'est que de la même manière qu'un récit de rêve dans la vie courante, c'est souvent très très ennuyeux, il y a des très grands récits de rêve dans la littérature, et bien là, ce récit d'analyse devient passionnant, précisément parce que ce qui est en jeu, c'est... Ce sont des rapports fondamentaux qui est du langage au réel, du langage aux affects, de la communication et de l'incommunicabilité. Enfin, toutes ces choses-là qui sont au cœur même de ce dispositif, en effet très théâtral, où cet espace privé qui est celui de la parole de l'analyse est complètement re-scénographié dans l'espace familial. Hein, puisque le trio formé par l'analyste, le mari et Jodie Dion elle-même, eh bien, déplace le trio qu'elle forme entre son mari, elle et sa fille, qui se déplace à son tour dans le trio formé par la fille, son propre analyste et sa mère ou ses différents amoureux. Mmh. Donc, il y a l'idée que tout peut toujours se rejouer ailleurs. Et donc,
en l'occurrence, selon les règles de Didion, c'est que je pense que ça aussi, c'est très important, c'est que notamment dans les débats éthiques qui ont entouré la publication de Nota John, il y avait l'idée que Quintana n'avait pas la parole, qu'elle était silenciée, mais on est chez Didion, on est dans la tête de Didion, donc le théâtre et la manière dont les choses se passent, bien sûr, c'est elle qui mène le jeu d'une certaine manière, Tiphaine Samoyo. On n'est pas là pour... Enfin, à mon sens, c'est un texte qui est très honnête, mais qui n'est pas là pour être, à quelque moment que ce soit, moral.
Non, pas du tout. C'est-à-dire que effectivement, c'est un document. Il faut pas du tout le lire comme un document sur Quintana. C'est pas un document sur sa fille. Mm. C'est un document sur elle-même et où elle parle aussi de sa relation avec sa fille, comme dans Le Bleu de la nuit. Mais c'est pas elle cherche pas à faire exister. Elle l'a fait beaucoup mieux exister dans Le Bleu de la nuit, qui est justement un texte très travaillé sur elle. Ici, c'est un objet. C'est une cause. Alors oui, on parlait de l'organisation des alcooliques anonymes. En effet, elle demande aussi à ses parents, c'est-à-dire que Quintana demande à ses parents d'assister aussi aux séances. Hein. C'est-à-dire, c'est l'idée, là aussi, pour agir sur le comportement. C'est l'idée qu'on doit agir sur le comportement de tous celles et ceux qui vous entourent et que ainsi on ira mieux.
Il y a aussi l'idée, pour revenir peut-être à
un contrôle social aussi.
Ouais. Il y a aussi l'idée peut-être pour revenir à une autre pensée magique qui est fake it until you make it. C'est-à-dire vraiment, il faut que tu fasses comme si ça allait mieux jusqu'à ce que tu puisses rejoindre l'idée que réellement ça va mieux, et c'est un peu le cas du côté des groupes que fréquente Quintana avec plus ou moins de réussite. Et puis on voit comment Jodie Dion elle-même, elle essaye de cheminer avec tout ça. On va écouter un deuxième extrait du documentaire et un deuxième extrait des Nota John.
Vous savez comment sont les enfants, ils ont toujours le sentiment d'être mis de côté. Un jour, nous avons parlé du genre de mère que j'avais été, et à ma grande surprise, elle m'a dit « Tu étais OK, mais un peu distante. » Je ne le pensais pas à l'époque. Je ne voyais pas comment cela pouvait être possible, puisque son père et moi avions si manifestement besoin d'elle. C'est souvent ainsi que nous nous rapportons à nos enfants. Plus tard, nous avons compris que, peut-être, nous ne les écoutions pas vraiment. Nous restions à la lisière de ce qu'ils disaient, sans jamais laisser leurs paroles s'infuser véritablement en nous.
J'avais mon bureau à la maison. Je me souviens quand on recevait du monde chez nous. Pas pour travailler. Je m'y installais, je m'asseyais à mon bureau pour être toute seule. Je lui ai dit que dans notre famille, nous aimons être seuls, y compris Quintana. Quand elle était toute petite, elle s'énervait s'il y avait trop de monde autour d'elle trop longtemps. Mais dès qu'on la mettait dans sa chambre pour faire une sieste, elle redevenait gaie comme un pinson. Elle ne dormait pas, elle parlait et jouait toute seule. Plus tard, maintenant encore, elle ne peut pas recevoir une amie ou être reçue chez elle plus d'une nuit. C'est la limite. Elle a besoin d'être seule, semble-t-il. Vous y avez tous un lieu à vous, il a conclu. J'ai raconté que toute cette question d'espace, de chambre, avait pris des proportions préoccupantes pour moi cette semaine. Je me suis aperçue que j'appréhendais beaucoup la virée en Californie avec Quintana. Pour commencer, elle a dit qu'elle espérait qu'on aurait chacune sa chambre. J'ai répondu que ça allait de soi. J'avais réservé une suite avec une chambre contiguë. Et puis je me suis inquiétée. Est-ce qu'elle communiquait ? Notre assistante a vérifié. Il est apparu que non. J'ai piqué une crise. J'ai eu une réaction totalement disproportionnée jusqu'à ce que j'obtienne ce que nous ayons une chambre, deux chambres séparées mais communicantes. On ne saurait mieux dire, il a répété. Séparées mais communicantes. C'est votre objectif à toutes les deux, non ? Atteindre le stade où vous soyez séparés, mais dans la communication. Chacune affranchie de l'autre. Chacune en lien avec l'autre.
Un extrait de Note à John dans la traduction de José Camoun. Antoine Cazé, vous avez dit, et tous les deux d'ailleurs, Tiphaine Samoyeau, vous avez dit, bon, il faut quand même dire qu'il est bouleversant ce texte. Mais est-ce qu'une des raisons qu'il le fait si émouvant, c'est pas la plongée si précise, si profonde, si tortueuse dans la relation entre une mère et son enfant, avec la spécificité que Quintana est adoptée, mais elle va vraiment au plus subtil des portes séparées mais communicantes. Quoi.
Ah, mais oui, c'est ça. Et évidemment, avec l'adoption bien réelle de la fille, on est au cœur du problème. Cet extrême m'a fait penser, quand je l'ai lu aussi, à cette très belle formule de Fanny Howe, qui est une autre romancière américaine, dans Le Nord profond, Deep North, où elle parle d'être « in contact with separation », en contact avec la séparation. Et c'est exactement le cœur du problème. On a parlé tout à l'heure du contrôle, de la difficulté à parler. Là, le passage sur les chambres est remarquable. Et c'est avivé par la traduction française, puisqu'on dit « est-ce qu'elles étaient communicantes ?» On entend évidemment la mère et la fille. Quoi.
Et on entend aussi l'écoute du thérapeute. C'est-à-dire que c'est aussi, évidemment, oui, toute la cure de la parole, de savoir relever le « chambre séparée mais communicante ». Donc c'est aussi ça qui fait toute la subtile, la force d'intimité, c'est qu'on est, ouais, on est dans les cœurs, on est dans les corps, on est dans les histoires très, très profondes.
Absolument, mais on est là-dedans, et en même temps, là j'avais sous les yeux une phrase que je voulais citer, de toute façon je vais prendre cette occasion pour le faire. À un moment donné, elle rapporte à propos de son thérapeute qui dit... Il dit qu'il a parlé au thérapeute de sa fille, et donc ils échangent, on voit la complexité déjà de la situation, et il commente, si bien qu'il y a plusieurs niveaux de distorsion possibles, voire d'erreurs. On voit bien que ça, c'est une réflexion, on va dire, métatextuelle. Hein. Évidemment, déjà à l'intérieur du dispositif de la cure, il y a plusieurs niveaux de distorsion, ouais. C'est indéniable.
Voire d'erreurs.
Mais alors, quand on est dans une double cure, c'est encore pire. Bien sûr, quand on écrit un livre qui parle de ces cures entremêlées, on se retrouve pris dans un jeu de miroir extrêmement complexe. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez raison de dire qu'il y a une profondeur émotionnelle extrêmement touchante et qui nous fait être sur le bord des larmes tout le temps. Mais en même temps, ça n'est pas contradictoire avec une espèce d'autoréflexivité qui est permanente, qui est peut-être parfois pas complètement contrôlée. D'ailleurs, en fait, ça reste quand même des notes. Tu l'as dit tout à l'heure, Tiphaine, c'est pas un livre qui avait peut-être vocation à être publié, donc il n'a pas été travaillé pour ça. Mais c'est aussi l'habitude de l'écrivaine qui était Joan Didion, c'est-à-dire qu'elle est déjà, même au stade des notes, dans le travail de réflexion sur ce qu'elle est en train de vivre et d'écrire.
Et puis, ce sont des notes qui sont quand même écrites a posteriori, parce qu'il est peu vraisemblable qu'elle ait eu un magnétophone dans sa poche. Ouais. Et effectivement, il y a une recomposition dans l'adresse aussi au mari, et une attention particulière, justement, à ces mots signifiants, à ces éléments qui peuvent être très, très vite des métaphores, comme les chambres communicantes. Et donc, je dirais que ça, c'est aussi une des caractéristiques de l'écriture de Didion qui a été fait beaucoup repérer et qui fait aussi son sa force, c'est-à-dire que elle est c'est très affectif, très intime, mais c'est pas du tout sentimental. Et donc c'est précisément parce que il y a cette distance qui est dans le travail d'écriture, qui est travaillé par l'écriture, qui est une mise à distance de l'émotion, de l'émotion directe.
Ouais, mais pas de l'émotion. C'est-à-dire, il y a pas de mise à distance de l'émotion. C'est-à-dire que moi, je trouve que le projet de clarifier l'expérience, pour reprendre ses mots à elle, est bouleversant, quoi. Je trouve que ce qu'elle se donne comme possibilité de clarifier les expériences est bouleversant. On n'a pas assez de temps, on va vite écouter Christy, auditrice du Book Club, elle vous adresse une question.
Bonjour le Book Club. J'ai lu Note à John, un beau livre honnête, généreux, fin, profond, que je conseille à des personnes qui aiment déjà l'œuvre de John Didion. C'est vraiment mon deuxième livre favori après L'année de la pensée magique. Pourtant, j'en ai lu plein d'elles, mais celui-là, il est vraiment hyper bien. Ma question pour les invités du Book Club, est-ce que vous connaissez un écrivain contemporain et vivant qui pourrait avoir une voix honnête, généreuse et profonde, comparable ou bien du moins nourrissante comme pourrait l'être celle de John Didion? Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt le Book Club.
Merci à vous Christy pour ce témoignage de lecture et pour cette question. Tiphaine Samoyo.
Alors, aussi généreuse et forte... je penserai tout de suite à une autrice qui m'y fait beaucoup penser, qui est Deborah Levy.
Je vous avoue que nous, c'est comme ça qu'on a répondu au bureau à Christy.
Ah, d'accord.
Ouais, dans notre tête, en tout cas.
Ah oui.
Ouais. C'est la première personne à qui on a pensé.
Voilà, mais elle écrit aussi en anglais. J'ai essayé de me dire, mais en tout cas, il y a chez elle ce mélange aussi de réflexivité et d'intimité qui crée. En effet, vous avez raison. Il s'agit bien d'émotion, mais d'une émotion qui est quand même mise à distance, qui n'est pas impudique,
non. qui est prise dans la pensée en fait,
qui est accueillante, disons, qui libère la nôtre, je dirais.
Absolument, absolument.
Et ce mélange aussi de réflexion sur le monde et sur sa vie propre, mais qui la vie n'est pas là pour être simplement racontée, mais comme témoignage précisément de ce qui nous rassemble, je dirais. Il y a de la communauté dans chaque événement personnel qui est raconté. Donc je dirais que voilà, c'est Deborah Levy. Puis j'ai cherché s'il pouvait y avoir un auteur ou une autrice française d'aujourd'hui vivante. Donc j'ai aussi pensé à Justine Augier. Alors c'est pas encore peut-être la même force d'œuvre. Mais c'est une œuvre plus jeune, plus. Il faut faire confiance aussi parce que finalement, John Didion, elle a commencé à être aussi forte et généreuse quand elle était arrivée à un certain âge aussi, même une certaine expérience et un certain âge de sa vie. Et voilà, Justine Augier, c'est aussi quelqu'un qui va se situer entre théorie et vie personnelle. Et son livre Croire, les pouvoirs de la littérature, c'est un livre qui parle à la fois du deuil de sa mère, mais qui essaye d'en faire le lieu d'une expérience de pensée plus large.
Bah merci, parce que ça nous invite à lire. Merci à la question de Christy, Antoine Cazé.
Alors moi j'ai pensé à un livre qui m'a beaucoup ému, dans un style très différent de celui de Jens, c'est le livre de Ocean Wong, Un bref instant de splendeur, c'est le titre en français, et le titre anglais c'est On Earth We're Briefly Gorgeous. Sur sa mère, qui est en fait conçue comme une lettre à sa mère qui est vietnamienne, qui a émigré avec son tout jeune fils Ocean, et qui a tenu toute sa vie un salon de manucure, et qui voilà, n'a pas du tout la culture littéraire qu'a son fils. Et donc, c'est à la fois une confession, une lettre, et un récit de vie et d'apprentissage qui est parfaitement bouleversant, avec une honnêteté, puisque l'auditrice parlait de l'honnêteté. Voilà, il y a une honnêteté absolument impeccable, qui relate des conditions de vie aussi extrêmement difficiles, qui parle de sujets tout à fait différents, comme l'intégration d'une communauté asiatique-américaine dans l'Amérique contemporaine. Donc ça m'a paru un roman très très beau. Et dans un tout autre genre, j'ai lu il n'y a pas longtemps ce livre de Jared McGuinness qui s'appelle Le Lâche. Et là, c'est le récit à la première personne d'un jeune homme qui subit un accident de voiture et qui se réveille paraplégique ou tétraplégique en fait. Et donc qui va livrer un récit tout à fait sans confession, sans concession.
Intéressant. Génial comme lapsus. Vraiment, pour terminer l'émission, c'est le meilleur lapsus qu'il nous fallait.
C'est ça, et donc qui m'a paru aussi très intéressant.
Merci beaucoup, merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous pour évoquer Note à John et finalement plein d'autres livres, en fait, ça, c'est le signe d'une bonne émission. La traduction signée José Camoun, parue aux éditions Grasset.